L'homme subit aussi, bien sûr, subit le climat tel qu'il est, mais en plus, pour la première fois, et c'est une action humaine qui est en émergence à l'heure actuelle, pour la première fois, l'homme démontre qu'il est une force de la nature comparable aux forces naturelles. C'est quand même très récent. Très récent, surtout à l'échelle, je pense, de Lucie. L'agriculture commence il y a environ 35 000 ans, je crois, quelque chose de cet ordre-là. 10 000, bah, ouais. Au début, c'était. Bon, Lucie faisait sa cueillette, elle gênait personne. Et puis petit à petit, ce qui s'est passé, c'est que l'homme a commencé à vouloir améliorer le progrès dont on parlait tout à l'heure, la fuite en avant, la connaissance, et surtout la connaissance applicable pour son mieux-être, pour qu'il puisse croître, pour que les populations d'ailleurs puissent s'accroître, donc plus de sécurité. Et l'homme a commencé donc à devenir efficace. Alors là, peut-être avec l'apparition du lobe frontal, mais il devient efficace, et quand il devient efficace, il commence par prendre les outils dont nous parlait Yves Copin tout à l'heure, il commence à tailler la pierre, donc il commence à consommer du caillou. Il n'en consomme pas beaucoup. Aujourd'hui, l'homme, dans les pays développés, consomme 20 tonnes de lithosphère par habitant par an. Lithosphère, y compris les ressources minières. 20 tonnes, y compris les granulats, y compris toutes ces choses-là pour faire des routes et tout. C'est énorme, c'est gigantesque. À l'époque, l'homme, là,
Combien tu dis? Combien tu dis?
20
20
tonnes
tonnes
par
par
an. 20 tonnes par an. Ça, c'est des chiffres que j'ai des Canadiens qui font de la prospective là-dessus extrêmement intéressante. Alors, il commence, l'homme, à vouloir être efficace. Pour être efficace,
C'est
il a le feu,
con,
en
c'est
plus.
énorme.
Dès que le feu arrive, ça favorise le fait qu'on peut faire des alliages. On va commencer à creuser dans la terre un peu plus. Et donc, on commence à avoir une activité semi-industrielle. Et petit à petit, donc, comme là, on fait ça de façon extensive, on commence. Alors, l'agriculture, il y a 10 000 ans, va commencer à défricher, va commencer à modifier un peu les choses. Et puis encore, ça met longtemps à ce que ça puisse avoir des conséquences sur le système. Et puis petit à petit, ça va devenir quelque chose d'énorme parce que le besoin en énergie, lié à l'expansion démographique très très vite, et à partir des années 1800 en particulier, l'invention diabolique de la machine, et en particulier de la machine à vapeur, et d'un seul coup, bah, il faut les nourrir, ces machines à vapeur, et puis elles marchent très bien. Comme elles marchent très bien, il faut aller chercher du charbon. Et puis il en faut de plus en plus. Et puis à l'époque, on ne pense pas que ce n'est pas renouvelable, parce que le caillou, la terre, c'est immense et il n'y a pas de problème. Et puis après, c'est le pétrole, parce qu'il est beaucoup plus efficace. Donc on commence à s'occuper du pétrole et on commence à chercher. Et toute une économie, évidemment, se développe derrière ce marché de l'énergie. Et on a donc une économie de la terre qui devient dominée par le marché de l'énergie. Et ça, c'est toute une période, disons, jusqu'à il y a mais à peine une dizaine d'années, où on a commencé à réfléchir sur ce problème de l'opposition entre ce marché de l'énergie et ce qui risquait, et les conséquences que ça risquait d'avoir. Et puis, donc ça, on a considéré que c'était des sources, des éléments qui étaient non renouvelables, mais qui en avaient plein. Et en particulier le pétrole, on a toujours dit, et moi j'avais commencé ma carrière un peu dans ces affaires-là, on a toujours dit, non, non, avec la technologie qu'on a maintenant, les gisements, on va en trouver des nouveaux, ça va donner un peu plus cher, mais on va en trouver. Malgré cela, à l'échelle géologique, on sait bien que c'est non renouvelable. Donc, à un moment quelconque, on peut réduire notre consommation, on peut s'arranger être plus efficace, mais à un moment quelconque, c'est vrai que n'étant pas renouvelable, ça ne sera pas renouvelé. Et puis, il y avait un autre élément naturel essentiel à la vie de l'homme, qui pendant longtemps nous a paru comme granted, comme on dit en anglais. C'était là, aucun problème. C'était l'eau et aussi l'air. Et l'air, on a commencé à se préoccuper, et l'eau aussi, quand on a commencé à regarder, qu'on a vu que l'air était irrespirable dans certains endroits et que l'eau était polluée. Mais ça fait rien, on a regardé ça d'une façon très étrange. C'est-à-dire que l'eau, les gens qui se préoccupaient de l'eau, le regardaient en voyant des rivières qui passent. La rivière vient de quelque part et va quelque part. Et l'eau en tant que telle, en tant que produit, est un produit mobile et ce n'est pas un produit de marché. Il n'y a pas de marché de l'eau. Ce n'est pas un produit exporté. Ce n'est pas un produit exportable à l'heure actuelle, il n'y a pas un prix global de l'eau comme il y a un prix du baril de pétrole. Et ça pose un problème énorme, énorme. Et comme on a cité l'eau des viandes, je vais vous illustrer à quel point le problème est énorme. C'est que voilà, je crois que c'est Danakil, en Afar, il a ce problème de l'eau, mais lui déjà, il est dans un produit exportable. Il est déjà dans l'eau des viandes en boîte. C'est symbolique parce que à l'heure actuelle, il faut savoir qu'à l'heure actuelle, il y a un habitant sur cinq sur la planète qui n'a pas l'eau potable. Il y a un habitant sur deux dont les eaux, la circulation d'eau, n'est pas reliée à des systèmes d'assainissement. On prévoit qu'en 2025, et ça c'est ce qui vient de se discuter à une conférence au sommet à La Haye, on prévoit qu'en 2025, la moitié de la population sera en dessous du seuil critique de l'accès à l'eau. Donc forcément, l'eau qui n'est pas exportée, l'eau qui est un produit, disons, un fauteur de troubles extraordinaire, pensez au Moyen-Orient, vous avez la politique de l'eau entre la Jordanie, Israël, la Syrie. Pourquoi est-ce que Israël est sur les
Liban.
hauteurs du Golan? Liban, bien sûr. Les hauteurs du Golan, c'est un des châteaux d'eau. La Cisjordanie aussi. Le vin aussi. Donc là, on a un problème qui est un problème qui, depuis peu, commence à être considéré parce que c'est un fauteur de troubles extraordinaire pour l'avenir. Et ça va être la guerre de l'eau. À l'heure actuelle, déjà, vous prenez des exemples qu'on connaît bien au Japon. Au Japon, il n'y a plus qu'une centaine de rivières qui vont à la mer,
Je crois que 8 guerres
directement. Donc le reste est
pas
totalement,
pourquoi j'ai
totalement
envie
recyclé.
ce moment.
Si vous prenez le
Ça
Colorado,
existe bien.
le Colorado, c'est extraordinaire. Vous avez cette rivière que les Américains
Ah oui, ça
recyclent et
j'étais.
recyclent. Et puis vous arrivez, parce que nous on habitait à côté, vous arrivez à l'embouchure du Colorado, la partie nord du golfe de Californie, il n'y a plus d'eau. Vous avez cette magnifique Paleo Valley qui est là, qui est grande, dans laquelle il y a quelques années se déversait de l'eau, il n'y a plus d'eau. Et vous voyez d'ailleurs tout de suite, au sud de la frontière Amérique-Mexique, vous avez des déserts, et quand vous regardez ça, surtout de l'espace, juste au nord, c'est vert, verdoyant, etc. Donc la politique, là, elle est sur ce petit grillage qui représente la frontière entre le Mexique et les États-Unis. Ça va devenir un des problèmes vitaux, aussi important que le problème de l'énergie. Le problème de l'eau est certainement plus difficile encore à résoudre. Mais on n'y pensait pas avant, parce que l'eau, elle est recyclée. L'eau, il n'y a pas de problème. Et puis, il y a l'océan. Il y a l'océan qui représente un réservoir extraordinaire. Oui, et on pourra exploiter l'eau de l'océan. Mais qui pourra se permettre d'exploiter l'eau de l'océan? Les gens qui en auront les moyens, parce que ça coûte extrêmement cher. Et qui, après, imposeront et exporteront leur technologie dans ceux qui auront besoin de l'eau. Et ça, c'est un problème, donc, de politique. Et vous allez voir que tout le problème des ressources dites naturelles va devenir un problème, disons, un système qui devra être codifié. Pour l'instant, il ne l'est pas, mais on voit que les conflits commencent à apparaître, et forcément, il va y avoir une codification de ce système qui sera régulé par l'économie, quelle qu'elle soit. Alors, soit une économie totalement de profit, soit une économie de partage, soit une économie de développement calculé, mais ça sera forcément régulé par cela. C'est déjà le cas pour l'énergie. Et Dieu sait si ça pose des problèmes, mais c'est le cas pour l'énergie, parce qu'il se trouve qu'il y a des pays qui ont plus de pétrole que d'autres et que ça régule un certain nombre de choses. Ça sera le cas pour l'eau. Alors, énergie,
Le
je
Québec
veux
est
vraiment
énorme.
insister sur ce problème de
Ah
l'énergie
oui,
et
c'est
du
ça.
climat, parce que c'est
Quel
là le problème central auquel on va avoir à faire face pour
incroyable
l'avenir et que
introduction.
vous savez, comme vous le savez, qui est sujet d'un très grand débat aujourd'hui. Un premier constat, c'est d'abord, bon, je rentre tout de suite dans ce domaine qui est le domaine de
Allez-y.
l'effet de serre. Le gros problème que l'on a, c'est que l'on sait que l'énergie que l'on consomme n'est pas une énergie propre et qu'elle a des rejets, quelle qu'elle soit. Alors, l'énergie nucléaire, pour l'instant, ne nous pose pas trop de problèmes, parce que l'énergie nucléaire fait des déchets tout petits. On les met dans des piscines, on les met dans des endroits, on se pose quand même très sérieusement le problème de ce qu'on va faire après, est-ce qu'on enfouit à terre, est-ce qu'on enfouit en mer, est-ce qu'on fait quelque chose? Mais pour l'instant, où est-ce qu'on arrive à recycler? Est-ce qu'on refait des superphénix qui arriveraient à faire mieux? Pour l'instant, en tout cas, l'énergie nucléaire, on se dit, bon, on n'est pas encore au seuil où ça pose problème. Mais l'énergie du charbon d'abord, et puis ensuite du pétrole, commence à nous poser problème parce que elle fait une expérience extraordinaire. C'est une expérience qu'a fait l'humanité. Cette énergie fossile, qui a mis des millions d'années, en gros, la plupart des gisements pétroliers ont 120 millions d'années, les gros, quelques-uns sont plus jeunes, mais elle a mis des millions d'années à se fabriquer, ce carbone organique qui a fabriqué le pétrole, instantanément, depuis environ, surtout depuis juste avant la guerre et encore plus après, on fait un court-circuit, l'homme fait un court-circuit et rejette ce carbone sous forme de gaz carbonique dans l'atmosphère. Et ça, c'est un problème qui est là, qui est visible, que l'on connaît, on voit l'augmentation du gaz carbonique. Alors, le gros problème va être de savoir quelles sont les conséquences. Alors, il faut comprendre un peu comment fonctionne le climat, mais surtout la dynamique du climat. Comment ça évolue? Bien, le climat à la surface de la Terre, il est soumis, rappelez-vous le système mécanique dont je vous parlais au début, il est soumis à ce qu'on appelle des fonctions forçantes. Et j'ai mis océan parce que je suis océanographe, mais c'est tout le climat et l'océan est un des moteurs principaux dans le climat. Il est soumis à une fonction forçante, d'abord tectonique. Et dans l'histoire, on voit très bien que c'est l'ouverture d'océan par la technique des plaques ou la fermeture qui a joué sur des millions d'années et qui a provoqué
Là, avec la répartition géographique des continents, avec l'ouverture de réservoirs et la fermeture de réservoirs, des variations du climat de la Terre global extrêmement importantes, qui ont dominé très très largement l'histoire ancienne de la Terre. Et quelquefois avec des phénomènes quasi instantanés. Quasi instantanés, comme par exemple la Méditerranée, qui il y a 6 millions d'années s'est trouvée fermée au niveau de Gibraltar pour des raisons tectoniques, s'est trouvée isolée et s'est totalement asséchée, avec un bassin qui faisait au moins quand même de 15 à 1 800 mètres de profondeur à l'époque. Elle s'est totalement asséchée, on a vu des couches de sel se déposer au fond, de façon répétitive au fond de ce bassin méditerranéen. Toute la Méditerranée était à sec, à 6 millions d'années. Ça s'est fait instantanément, et là, l'homme n'avait rien à voir avec ça. C'était uniquement des raisons d'origine tectonique. Et puis le volcanisme. Le volcanisme, c'est très curieux, parce que les volcans dont je vous ai parlé tout à l'heure, ils ont principalement comme effet d'envoyer des quantités fantastiques de poussière dans l'atmosphère. Et ces poussières représentent un filtre pour l'énergie solaire et donc provoquent des refroidissements. Et on les a mesurés, et même des expériences en vraie grandeur comme la guerre du Golfe, où on a vu localement, en Arabie Saoudite et au Koweït, on a vu une réduction d'environ 1 à 1,5 degré de la température pendant toute la période où il y avait ces cendres résultantes des incendies des puits de pétrole. Donc, normalement, ça abaisse la température. Mais, en même temps, les volcans crachent énormément de CO2. Et non pas tellement ces volcans qui sont émergés, qui sont dominés par la poussière, mais tout le volcanisme sous-marin provoque un dégazage et un enrichissement des fonds océaniques en CO2. Alors, évidemment, qu'est-ce qui se passe dans les fonds océaniques? La circulation est assez lente. En fait, une particule fait tout le tour de la Terre, de la circulation océanique, qui est un système comme la circulation sanguine. C'est pas aléatoire. Tout ça est un conduit. En à peu près 1 800 ans. Donc évidemment, les effets, on ne les sent pas tout de suite, du 1 800 ans pour qu'il y ait des particules qui passent dans le système. Mais à l'échelle géologique, c'est instantané, c'est un recyclage absolument permanent. Et quand le volcanisme, dans certaines périodes du passé, a été extrêmement fort, et en particulier le volcanisme sous-marin, on a eu une augmentation considérable du CO2, et on sait là très bien, et on l'a mesuré, que la température était très très nettement supérieure. Dans les périodes, disons, antérieures à 90 millions d'années, on avait une température moyenne à la surface du globe, qui est de l'océan en tout cas, qui était de l'ordre de 7 à 8 degrés supérieure à ce qu'elle est maintenant, et même dans certains cas de 12 à 14 degrés dans les basses latitudes. Donc une température très très nettement plus élevée, qui n'empêchait pas la vie, mais qui empêcherait peut-être la nôtre. Et puis il y avait une troisième fonction forçante, c'est l'insolation. Et c'est celle-là qui domine à l'heure actuelle notre climat. C'est-à-dire que la Terre tourne autour du Soleil avec des caractéristiques orbitales qui sont particulières et qui ont des variations cycliques. Alors, parce que c'est la variation de son inclinaison sur le plan de l'écliptique, c'est la distance par rapport au Soleil, ce qu'on appelle l'excentricité, donc l'orbite autour du Soleil est une ellipse, elle n'est pas un cercle, l'obliquité c'est donc ceci, et puis la précession des équinoxes, qui est le fait que l'axe polaire a un mouvement d'oscillation autour de son axe. Donc ça, c'est des choses qui sont naturelles, qui sont fixes, qui ont toujours existé. On peut retrouver ces paramètres-là, orbitaux de la Terre et leur influence sur le système, il y a 120, 130 ou 200 millions d'années. On les retrouve dans le fait que les couches sédimentaires sont bien rythmées et qu'on peut retrouver tous ces rythmes-là. Et puis, il y a une fonction forçante aléatoire, dont peut-être Pierre Léna nous parlera ce soir, c'est la chute des météorites. Et alors, tout à l'heure, quand on a parlé de probabilité, de catastrophisme, etc., celle-là, vraiment, elle nous échappe totalement. Les grosses météorites, il y en a qui sont tombées sur la Terre. Il y en a, quelqu'un a trouvé qu'il y avait un cycle un peu inquiétant qui était de dire il y a un cycle de 32 millions d'années pour les grosses météorites tombant à la surface de la Terre, et la dernière était il y a 31,5. Alors bon, c'était un peu anecdotique quand même. Pour l'instant, on ne voit pas de cycle, mais on sait qu'il y a eu de très grosses météorites qui sont tombées à la surface de la Terre. Et même récemment, enfin, si vous regardez celles qui sont tombées aux États-Unis ou en Australie, il y a quand même des cratères qui sont impressionnants. Alors ça, c'est une fonction forçante que vraiment je considère aléatoire. Et puis, il y a une fonction forçante en émergence. En émergence, à l'heure actuelle, c'est l'activité humaine. Nous sommes dans une période où, pour la première fois, l'activité humaine va commencer à bouleverser un peu les choses. Alors, qu'est-ce qu'on a comme évidence que l'activité humaine peut jouer? Pour ça, pour nous, il faut qu'on se replace. Si on veut voir ce que fait l'homme aujourd'hui, il faut qu'on se replace dans le contexte d'une évolution et donc que l'on essaye de regarder ce qui s'est passé dans le passé. Si on regarde de façon instantanée, on ne voit rien, il faut qu'il y ait une évolution, il faut qu'il y ait des courbes, il faut qu'on voit une augmentation, une diminution. Alors c'est intéressant de regarder ce qui s'est passé
au cours de certain nombre de millions d'années. Je vais prendre ça. Alors, attendez, je reviens en arrière. Un peu de sens. Hystérésis dans le système. Voilà. Ça, c'est la température. Variation de température à la surface du globe. Vous avez 25 degrés ici et vous avez 10 degrés ici. Et puis là, une échelle de temps absolument évidemment aberrante puisque c'est une échelle qui est log et qui donc fait que vous avez 1 milliard d'années ici, 100 millions, 10 millions, etc. jusqu'aux périodes récentes. Donc, évidemment, c'était pour privilégier cet aspect récent ici. Mais vous voyez que la température, effectivement, elle a varié. Ça, c'est toute la période du Crétacé, en particulier d'ailleurs, où on a fabriqué du pétrole et en veux-tu, en voilà. Toute cette période ici, là encore, et ça, ce sont des périodes à très très fort volcanisme qui font qu'il y avait beaucoup de CO2 dans le système. Donc on sait que la relation, déjà, ça fait depuis longtemps que la relation entre CO2 et température dans le système existait. Et puis ici, un peu la même chose au Miocène, c'est-à-dire, disons, jusqu'à entre 12-25 millions d'années. Et puis petit à petit, un refroidissement régulier avec une diminution concomitante du CO2 dans l'atmosphère. Et ça, on le sait parce qu'on sait mesurer dans les fossiles, etc., la composition de l'atmosphère. Et puis plus récemment, comme on va le voir, on sait mesurer directement dans les bulles qui sont emprisonnées dans la glace des pôles. Et là, on peut mesurer l'atmosphère directe. Et la composition réelle en CO2 de l'atmosphère ancienne jusqu'à environ 300, maintenant 350 000 ans environ. Et on continue. Alors, quand on va vers le récent, on s'aperçoit que donc on est dans un système qui est en oscillation ici. Qui est en oscillation avec des choses qui sont ici, disons, en gros 10 000 ans, 10, 15 000 ans, on a des oscillations encore assez fortes, et puis ça semble s'atténuer. Je m'abstiens pour l'instant de parler de ça, on en parlera tout à l'heure, mais pour l'instant, voilà, en gros, température, et dans tout ce domaine-là, température et CO2, on a une démonstration très très clair, et là j'y viens, c'est grâce au carottage dans la glace des pôles, on a une relation indubitable entre la teneur en gaz à effet de serre, et là on prend le méthane et le gaz carbonique, emprisonnés dans ces petites bulles de glace, vous voyez sur une échelle de temps ici, il fait 160 000 ans, le zéro étant ici. Donc c'est l'inverse de tout à l'heure, hein, zéro et 160 000 ans. Ce que l'on voit ici, c'est en température. En degrés, vous voyez que ça va de moins 10 degrés à le zéro est à peu près ici. C'est le changement de température par rapport à ce qu'on a aujourd'hui. Donc c'est le zéro veut dire température actuelle. On a ici une variation que l'on retrouve absolument partout de la température globale. On la retrouve aussi dans les sédiments océaniques. On la retrouve partout sur 160 000 ans sans aucun problème. Et vous voyez une corrélation évidente entre cette variation de température et la teneur en deux gaz à effet de serre, qui sont le gaz carbonique et le méthane. Donc ça nous conforte dans l'idée, bon, on savait déjà qu'il y avait cette relation entre teneur, en tout cas en CO2 dans le passé, et variation de la température à la surface du globe. Et si on remonte plus loin dans le passé, on peut remonter et on constate que ça, ces pics ici, vers le bas, sont des pics de froid qui correspondent aux périodes glaciaires, et les pics vers le haut sont des pics de chaud qui correspondent aux déglaciations. Et quand on remonte dans le passé, on s'aperçoit que tous les 100 000 ans, régulièrement, depuis 2,5 millions d'années, tous les 100 000 ans, le système est dominé par ces oscillations entre glaciaires et interglaciaires, que chaque déglaciation est très rapide, les reglaciations sont rythmées et relativement lentes, mais tous les 100 000 ans, on a ce système-là. Et ce système qui est le système donc ancien a sa teneur en CO2 qui suit exactement les variations de température. Alors, quand on regarde de plus près ce qui a pu se passer dans le récent, et non pas à 160 000 ans, si on regarde, on sait qu'il y a des variations de température. La surface du globe et nos pays civilisés ont connu des variations de température importantes que l'on connaît très bien. Et là encore, bon, vous avez une échelle qui va ici de 18 000 ans jusqu'à zéro. Vous avez ici des variations de température importantes. Vous en retrouvez en particulier la période médiévale, et puis depuis la période médiévale, vous avez ce qu'on appelle le petit âge glaciaire, qui est un refroidissement dont la fin coïncide d'ailleurs curieusement, est-ce que c'est une coïncidence, avec le début de l'ère industrielle. Donc si ceci, et si on agrandit cette partie-là de la courbe, voilà ce que ça donne. Vous avez la période chaude, une période froide très importante. Si en gros on a calculé à peu près 500 000 morts en Europe, vous savez les tableaux de Bruegel l'ancien et les gens qui faisaient du patin à glace, bon, ils avaient l'air heureux ceux-là, mais les gens étaient très fragilisés et ça a duré très longtemps. Et curieusement, après, ça commence à remonter. Alors on peut dire, bah, très bien, pourvu que ça dure, pourvu que ça remonte, on ne va pas retomber dans des conditions glaciaires de ce genre. Et si on prend ensuite la période récente, 1870 à 1990, eh bien, dans cette période-là, on s'aperçoit que le réchauffement continue. Alors, grande question, il continue. Est-ce que c'est parce qu'il continue de façon naturelle ou est-ce que ce réchauffement est provoqué? Là, vous avez des pages entières et entières de journaux, de sciences, de tout, et d'opinions qui peuvent effectivement s'exprimer. Donc là, il faut qu'on parte d'un certain nombre de constats. Le constat, c'est d'abord que effectivement, il y a cette relation entre le CO2. Ça, c'est inévitable. Il y a la relation entre le CO2 et la température. Puis d'autres constats qui sont venus là. Alors on s'est dit, bon, mais on va regarder quand même. Est-ce que la température augmente? Oui, la température augmente. Il n'y a pratiquement aucun doute. Bon, l'échelle, vous ne la voyez peut-être pas d'ici, mais le zéro, qui serait la température actuelle, est ici. Et dans l'échelle de temps, oui, ici, on est en 1860, et là, on est en 2000. Alors, la courbe n'est pas encore jusqu'en 2000, parce que les statistiques, quand ça a été publié, on n'était pas en 2000, on était en 1970 ou 80. Donc là, voilà les variations de température que l'on connaît et qui oscillent, bien sûr, mais ça monte. Et en fait, 1860, oui, bon, ça c'est quand on fait la moyenne, bon, ça c'est des mesures, et quand on fait la moyenne, voilà la courbe en noir et en plein ici, c'est la moyenne de ce réchauffement qui se continue. Il a l'air d'ailleurs relativement régulier. Bon. Est-ce que il est provoqué ou pas? En tout cas, et ça nous intéresse directement, il correspond aussi à une élévation régulière du niveau de la mer. Le niveau de la mer entre 1880 et on a des mesures très anciennes, entre 1880 et là 1982, je crois, ce niveau de la mer a augmenté. Alors ici, c'est une échelle en centimètres, vous avez 0, moins 2, moins 4, moins 6, moins 8, donc ça, chaque fois, c'est 2 centimètres. Il augmente régulièrement et en fonction de la température normale. La température, d'une part, dilate la masse océanique. Quand ça refroidit, l'océan se contracte et quand ça réchauffe, ça se dilate. Et puis le fait que la fonte des glaces partielle, qui sera peut-être de moins en moins partielle dans l'avenir, la fonte des glaces, évidemment, remplit les océans et fait monter le niveau de la mer. On a donc des évidences de ce réchauffement. Une autre évidence de réchauffement que l'on a à l'heure actuelle, c'est effectivement la fonte des glaces. Là aussi, c'est la bouteille à l'encre. Beaucoup de gens disent, mais bon, les grands icebergs qui s'en vont, on a récemment, l'an dernier, un iceberg s'est détaché en mer de Weddell qui avait à peu près la taille de la Corse. Il y en a un qui est en train de se détacher, là, je ne sais plus dans quel endroit autour de l'Antarctique. Pareil. Donc on se dit, mais est-ce que c'est dû à un réchauffement? D'autres personnes vous diront, non, c'est quand les calottes de glace sont tellement pleines qu'elles débordent. Mais il y a récemment, et je viens d'en discuter la semaine dernière à Bruxelles, il y a une évidence maintenant très nette que l'Arctique, l'océan Arctique, est en train de perdre sa glace de mer. Il y a eu entre 1960 et maintenant, avec des mesures directes, les sous-marins nucléaires américains qui passaient sous la glace et qui mesuraient avec un sonar tourné vers le haut l'épaisseur de la glace. On a constaté depuis 1960 jusqu'à les dernières expéditions de ce genre 40% de réduction du volume de la glace de mer en Arctique. À tel point que j'évaluais un programme où on dit c'est merveilleux, il va peut-être y avoir les ports Archangelsk et tous les ports qui sont dans l'Arctique vont se trouver libres de glace. S'il n'y a plus de glace dans l'Arctique, il va y avoir plus de CO2 qui pourra rentrer dedans, donc c'est pas mauvais ça pour l'effet de serre. S'il y a plus de CO2, ça va augmenter la pêche parce que ça veut dire que le CO2 va favoriser le phytoplancton, c'est-à-dire les plantes qui ensuite vont se transformer en zooplancton, enfin vont favoriser le zooplancton, et après les poissons. Donc les pêcheurs norvégiens disent c'est merveilleux, mais en même temps des conséquences qui risqueraient d'être catastrophiques, et en particulier l'arrêt de la circulation telle qu'on la connaît. Il y a une espèce de grand tapis roulant de la circulation océanique, et la formation des eaux profondes se fait dans l'Atlantique Nord, et ces eaux profondes qui envahissent ensuite tout le reste du monde océanique sont le système qui garantit à la fois le transfert d'énergie en latitude et en même temps le renouvellement de la matière vivante, puisque c'est ça qui recycle tous les éléments nutritifs qui sinon seraient enfouis au fond de la mer. Et donc, on a un problème énorme avec un corollaire immédiat qui nous touche, c'est que lorsque l'on stoppe, et on l'a vu dans le passé au Quaternaire, il y a quelques centaines de milliers d'années, on a vu des périodes d'arrêt d'eau profonde par fusion des glaces dans les périodes de réchauffement. Et ces fusions de glaces ont fait un couvercle d'eau non salée, d'eau douce, qui a arrêté la formation des eaux profondes, qui se forment par densité, donc par évaporation et avec augmentation de la salinité. Cet arrêt de circulation provoquerait probablement, parce qu'en tout cas on l'a vu dans le passé, l'arrêt du Gulf Stream. S'il n'y a plus de Gulf Stream, je ne vous conseille pas d'aller vivre en Bretagne ou en Angleterre. Il faudra qu'on aille tous dans le rift africain se réadapter à l'accueillir. Donc là, on a à faire face à un problème quand même qui est considérable. Le gros problème que l'on a, c'est comment est-ce qu'on peut relier ça à l'activité humaine directe. Alors, il n'y a pas grand-chose, il n'y a pas grand-chose, mais il y a quand même une première chose. Et là encore, vous allez voir que les discussions peuvent être infinies. Ça, c'est l'évolution totale de la population. Il y a quand même un chiffre qui est, je trouve, très parlant. À l'heure actuelle, par année, 90 millions d'augmentation de la population mondiale. Alors, c'est aujourd'hui, ça c'est mesuré, c'est mesurable. Vous savez qu'on a 6 milliards et l'augmentation, elle est, la courbe ressemble à cela. Alors évidemment, il faudrait l'arrêter ici pour être très honnête. Et ça, cette partie-là de la courbe, elle est complètement honnête. Elle est mesurée. Le reste est une projection. Mais vous voyez que cette projection, d'ailleurs, ne tient pas compte d'une accélération ici. Et puis beaucoup de gens vous diront non, 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 on va en fait réduire parce qu'il y a une politique sociale dans le monde. On va réduire, avec la Chine en particulier, a réduit ses naissances. Nous sommes, nous, dans les pays de l'Ouest, dans des zones où là, on stabilise la population. Et donc, après tout, le développement, l'expansion démographique n'est pas assuré de continuer à ce rythme-là. On veut bien le croire. On veut bien le croire. Mais pour l'instant, il est clair que malgré cela, les pays développés se trouvent dans cette partie-là de la courbe dès maintenant, et les pays en voie de développement ont à l'heure actuelle cette partie-là et ont ce potentiel d'expansion démographique là. Les économistes souvent se frottent les mains. Donc, quel marché! Magnifique ce qui va se passer là-dedans, parce qu'il va falloir développer, il va falloir transférer des technologies, donc ouvrir des marchés. Mais qui dit transfert de technologies et marché dit consommation d'énergie, évidemment. Accrue et consommation d'énergie un peu anarchique, parce que si nous on commence à se préoccuper de la pollution, nous sommes aussi des donneurs de leçons et on voit mal à l'heure actuelle des pays en voie de développement se préoccuper de la pollution. C'est quand même un luxe de riches. Ça coûte très cher se préoccuper de la pollution. Et si vous allez demander à la Chine qui dépend totalement du charbon, le charbon est épouvantable pour les gaz à effet de serre, bien pire que le pétrole. Vous leur dites non, non, alors arrêtez de consommer du charbon, faites donc des centrales nucléaires et puis tout marchera très bien. On n'en est pas là. Et donc là, on a un problème qui va se poser. Et quand vous voyez la consommation annuelle d'énergie telle qu'on la voit démarrer entre 1860 et 1980, vous voyez que juste après la guerre, c'est parti loin, 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 loin et en dehors des limites de l'épure. Et là, ce problème-là, c'est mesuré, et ça, on le sait, on sait que c'est comme ça. Alors, on va dire, mais attention, si on réduit la consommation d'énergie, ou du moins si on réduit la population, puisque cette courbe est exactement celle de la population. Si on réduit la population, par exemple dans les pays développés, la consommation d'énergie va réduire. À l'heure actuelle, c'est l'inverse. La consommation d'énergie augmente en ce moment plus vite qu'elle n'a jamais augmenté dans notre pays à nous. Parce que le mieux-être, le développement de l'industrie, etc., fait que, avec une population qui va stagner et même se réduire, la courbe d'augmentation d'énergie continuera à monter. Et c'est celle-là qui nous préoccupe, parce que c'est celle-là sur laquelle il est bien plus difficile d'agir que sur celle des pays en voie de développement. Et la concentration au CO2, ben elle suit exactement la montée de l'énergie et nous avons les mêmes seuils et les accélérations se font ici. Donc là, on est devant un problème qui n'est pas simple à résoudre. D'autant plus que d'un seul coup, on commence à regarder, on a vous ai montré ce qu'il y avait dans les carottes de glace, on se dit, bon, ben, on va regarder un peu dans le passé quand même comment ça se passait, est-ce qu'on pouvait survivre, est-ce que ça se passait bien, est-ce qu'il n'y avait pas trop de problèmes. Or, on s'aperçoit que dans l'actuel, c'est comme par hasard, je ne retrouve pas mon transparent. Et le voilà. On s'aperçoit que quand on regarde la teneur en CO2 de l'atmosphère aujourd'hui, on s'aperçoit d'une chose quand même assez effarante, qui est un fait absolument indéniable, que personne ne nie, c'est qu'elle est largement plus élevée, celle de méthane aussi, qu'elle n'a jamais été dans le passé, sauf quand on remonte au Crétacé 120 millions d'années avec la production des gisements pétroliers, etc. Elle est aujourd'hui à ce niveau ici, à 360 ppm, alors que vous voyez que les oscillations du passé, et je pourrais vous continuer cette courbe-là exactement pareille, avec exactement les mêmes niveaux qui étaient à 280 ppm à chaque fois que vous aviez les périodes les plus chaudes de tout le Quaternaire, aujourd'hui, on est là. Et on prévoit qu'entre 2025 et 2100, on devrait doubler cette production de CO2. Le méthane, encore pire, voilà où était le méthane dans le passé, le méthane, il est là. C'est un gaz à effet de serre extrêmement puissant. Alors, dit-on, c'est extraordinaire, parce que si c'est ça, et c'est là où est le débat, mais ça ne se réchauffe pas à l'heure actuelle, ça se réchauffe de 1 degré, vous avez vu la courbe, 1 degré par-ci, par-là. Ça ne se réchauffe pas de façon globale, d'une façon vivable, disons non vivable, on peut faire avec, puisque ça va. Oui, mais c'est oublier justement la circulation océanique et l'hystérésis énorme qu'il y a dans le système. Il y a une inertie qui est énorme, mais qui va être de quelques siècles. Au bout de quelques siècles, on devrait commencer à ressentir cet effet-là de ces gaz. Alors, on a très bien réduit le méthane, on a réussi à faire des protocoles qui sont remarquables, et on a eu, si on continue, on va avoir une. Disons, on a à faire face devant nous à un mur écologique catastrophique. Mais comment voulez-vous convaincre de cette affaire-là, puisque déjà on ne constate pas? Ça va très bien pour l'instant. Ça va très bien, mais non, ça va pas toujours très bien. Il y a plus de cyclones à ce moment dans les basses latitudes du Pacifique qu'il n'y en avait. Tahiti a été touché par une série de 5 à 6 cyclones en quelques années, alors qu'avant, c'était tous les 7-8 ans qu'il y avait un gros cyclone qui touchait Tahiti. Les El Niño, vous savez, cette oscillation de la circulation équatoriale dans le Pacifique, qui a fait couler beaucoup d'eau, qui est catastrophique pour le climat, puisque d'un seul coup, la Californie devient tellement humide qu'il y a des glissements de terrain, etc., le Pérou aussi, et puis des cyclones aussi de l'autre côté, et les sécheresses épouvantables en Indonésie, avec des incendies de forêt, etc. Il y en a plus qu'il y en avait. On sait, en étudiant le passé, que les périodes d'El Niño sont des périodes à fort CO2, fort taux de gaz carbonique. Est-ce que c'est lié, honnêtement, est-ce que c'est lié à la production actuelle de gaz carbonique qui est cette accélération? On n'en sait rien. On retombe dans l'incertitude de tout à l'heure. Nous n'avons que des indications. Tous les indicateurs, par contre, vont un peu dans le même sens. Et dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on peut faire? Et bien, dans ce cas-là, je pense que c'est là où le débat sur l'environnement devient très difficile. Je crois qu'il faut une mobilisation. Cette mobilisation, elle est lente, elle est pénible, parce qu'il y a toutes ces incertitudes dont on a parlé tout à l'heure. Mais je crois que là, et c'est peut-être là que les gens des sciences de la planète, les ingénieurs, en particulier les consommateurs d'énergie, et le monde politique doivent pouvoir arriver à dialoguer et à se retrouver. Très, très difficile. Là encore, ça tient à la démarche. Très difficile parce que le scientifique, par définition, donc il veut ses certitudes, il est prudent, il veut aller doucement, et puis il veut continuer à chercher tranquillement. Le développeur, il va bien plus vite. Le développeur, lui, et puis attention, le développeur, l'ingénieur, le technicien, la technologie qui se développe très vite, toute la technologie de l'information, tout ce qui vient de se passer en quelques années, qui a une accélération brutale. Ben, ils ont raison, ils sont en avance, ils créent des emplois, ils créent une économie qui marche. Le géologue ou le climatologue qui arrive avec ses petites courbes là derrière, il est dégoûté, ben, attendons, on verra bien plus tard. On verra bien plus tard. Le plus tard, c'est quand même des scénarios qui vont nous faire réfléchir. Qu'est-ce que c'est le plus tard? Le plus tard, c'est pas dans tellement longtemps. Attendez, voilà, oui, le scénario. Le plus tard, c'est d'abord qu'on a commencé, évidemment, de penser que depuis une bonne dizaine d'années, surtout d'ailleurs depuis les 5 dernières années, oups, les 5 dernières années, on a regardé, pardon, c'était bien, on a regardé ce qui pouvait se passer. Et on a dit, on va faire des scénarios. On va faire des scénarios en disant, voilà où on en est, ça, c'est donc le doublement de la teneur en CO2 atmosphérique qu'on prévoit ici, et puis on a fait des scénarios très, très scientifiquement élaborés en disant, bon, ben, si on arrive à réduire, où est-ce qu'on va monter, où est-ce qu'on va continuer à monter, Et en particulier, cette courbe-là, c'est ce qu'on appelle la courbe BAU, en anglais, Business as Usual, c'est-à-dire si on ne change rien. Alors on va dire, ben, on va essayer de mitiger tout ça. Alors, soit il y aura moins d'expansion démographique, une consommation d'énergie plus intelligente. Par exemple, il est vrai que le méthane, maintenant, on l'a réduit considérablement. De même qu'on est capable de réduire les CFC pour ne pas toucher la couche d'ozone, ça a été fait. Le protocole de Montréal est appliqué. Il n'y a plus de CFC qui partent dans le système et vous avez tout le monde à coopérer. L'ennui, c'est que ça n'a pas restauré la couche d'ozone. Alors, pour l'instant, on ne sait pas pourquoi, mais pour l'instant, ça n'a pas agi au niveau de la couche d'ozone. Enfin, toujours pareil, le système climatique a des hystérésis qui sont très importantes.